La première, 17h-18h, Galaxy BD, Thierry Belfoy.
Bienvenue dans Galaxy BD, dont le vaisseau reprend son envol après une petite révision de la salle des machines. Cette semaine, il nous emmène au kilomètre zéro, puisque c'est le titre de ce roman qu'adapte en bande dessinée l'autrice Mathilde Ducret. Et puis, il nous fera faire quelques détours dans le sud-ouest en compagnie de Jean-Louis Tripp, qui rend hommage à son père dans une nouvelle bande dessinée autobiographique. Notre chroniqueuse du jour, c'est Cynthia Isarelli. Elle vous dira tout sur les ouvrages de bande dessinée qui s'inspirent de la mythologie. C'est parti !
Galaxy BD
sur la première.
Et on démarre avec Jean-Louis Tripp. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
Vous avez travaillé avec Régis Loisel sur une série qui a marqué les esprits, Magasin Général. 9 albums parus entre 2006 et 2014, mais vos débuts remontent bien avant, aux années 80. Vous avez raconté des bribes de ces débuts d'ailleurs dans ces dernières bandes dessinées que vous avez publiées, des bandes dessinées qui sont tous des projets autobiographiques. Ces dernières années, il y a eu d'abord les deux volumes de Extase, puis Mon Frère, et là, vous venez nous parler de votre père. Auparavant, j'aimerais que vous nous proposiez un ouvrage que vous avez particulièrement aimé et que vous avez envie de faire lire à celles et ceux qui nous écoutent.
Alors, il va y en avoir deux.
Bravo, ça commence fort.
Un qui est Éclore de Audemer Millau.
Qui est venu ici même nous en parler.
Bien sûr.
Et dans lequel vous apparaissez.
Mais c'est parce que c'est un très très bel ouvrage qui fait un peu écho à Extase, puisqu'elle a eu l'idée de faire ce livre à l'époque où moi-même je faisais Extase.
Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, Extase racontait votre parcours du point de vue sexuel ou du point de vue du développement du corps et du désir.
Oui, pour moi Extase c'est des ouvrages très politiques sur le corps dans notre société et je pense qu'Éclore est également exactement dans cette veine-là. Donc formidable ouvrage. Et puis l'autre, c'est Rebetissa, que je viens de lire cette semaine et qui m'a vraiment scotché par l'extraordinaire rendu des ambiances que David Prudhomme arrive à faire. Graphiquement, c'est remarquable. Narrativement, c'est magnifique.
Donc Rebetissa, qui est la suite de Rebetiko, paru 20 ans auparavant, si je ne me trompe pas, et dans lequel on se retrouve dans cette communauté de gens qui sont liés par la musique, mais qui sont aussi liés par l'interdiction de jouer cette musique.
Oui, qui sont un peu des parias, quoi, en fait, il faut le dire, à l'époque du régime de la dictature. Quoi.
Dans la dictature grecque.
Ouais.
On va passer à Mathilde Ducret. Mathilde, bonjour. Vous vivez en Belgique. Vous avez fait vos études à Saint-Luc, d'ailleurs. Mais vous êtes originaire de Fribourg, en Suisse. On vous a découverte il y a un an avec votre premier roman graphique, Fragile, qui a notamment frappé par une utilisation très personnelle de la couleur. Et vous venez nous parler de votre adaptation du roman Kilomètre Zéro, un roman qui est véritablement un best-seller, on peut employer le terme. On est à 2 millions d'exemplaires, si je ne me trompe pas, vendus en français. Alors avant ça, moi aussi, je vais vous poser la question, la même qu'à Jean-Louis. Quel est l'ouvrage de BD que vous recommandez à nos auditrices et nos éditeurs?
Alors, l'ouvrage que j'ai choisi, c'est un roman graphique qui est sorti au mois de septembre, septembre dernier. Et il s'agit de « Manger » de Éléonore Marshall aux éditions Cambourakis. Et ce que je trouve vraiment impressionnant avec ce livre, c'est que c'est, je pense, un des premiers en bande dessinée qui parle de TCA, de troubles du comportement alimentaire, avec autant de franchise. Et c'est vraiment une plongée intime, enfin c'est très intime et introspectif. Moi, ça m'a vraiment marqué. J'ai ressenti énormément d'émotions en le lisant, puis c'est vraiment quelque chose d'important, je pense, les émotions quand on écrit des histoires. Et non seulement c'est un sujet hyper important, hyper actuel aussi, mais la manière dont ça a été traité, c'est très... on est un peu dans un mélange, je trouve, de sucre et de violence, dans le sens où c'est très frontal. Par moments, il y a vraiment des scènes qui font mal, tout en étant évoquées parfois avec une simplicité, une authenticité qui est hyper touchante et qui est presque réconfortante. Enfin, moi, j'ai ressenti énormément de choses en le lisant, donc je peux que inviter les gens à faire cette rencontre avec ce livre.
Merci Mathilde.
Galaxy BD.
Voilà une ambiance qui nous emmène tout de suite dans les décors de votre livre « Kilomètre zéro ». Mathilde, nous allons maintenant explorer ce livre qui est une adaptation, je l'ai dit, d'un roman à succès, roman de Maud Ankawa, et qui est... une sorte de parcours initiatique, de quête initiatique d'une femme qui est la créatrice ou la co-créatrice d'une start-up à succès, qui a tout pour être heureuse dans sa vie parisienne, mais peut-être qu'il lui manque une chose. Il lui manque peut-être simplement l'essentiel.
C'est ça.
Une de ses amies, qui est sur le point de mourir, puisqu'elle est atteinte d'un cancer, voudrait qu'elle aille pour elle chercher une formule magique. Alors ça paraît un peu bizarre comme argument, on se dit mais comment est-ce qu'elle a la naïveté de partir à l'autre bout du monde chercher cette formule magique? On peut développer un peu, hein, mais la voilà qui part. Elle va se retrouver d'abord à Katmandou et puis aller jusqu'au contrefort de l'Himalaya et de l'Annapurna dans une véritable quête, non pas pour avoir cette formule magique, mais d'interrogation sur ce qu'elle est elle-même.
C'est ça.
C'est ce qui vous a plu dans ce roman?
Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de la chasse au trésor, un petit peu ce voyage qui commence d'une manière assez étonnante. C'est vrai qu'on se pose la question en le lisant, mais c'est hyper naïf comme démarche. Et en même temps, c'est, je pense, un choix. Si on était amené à faire le même, si on se met vraiment dans la position d'une personne qui, OK, il n'y a plus d'autres solutions, la science fait déjà tout ce qu'elle peut, la médecine fait déjà tout ce qu'elle peut, qu'est-ce que je peux faire, moi, qui suis le témoin de la souffrance d'une amie qui a peur, parce qu'elle a peur peut-être de mourir, et qui nous fait cette demande un peu désespérée de dire « j'ai besoin de mettre toutes les chances de mon côté, il faut que tu ailles chercher cette espèce de méthode, formule magique au Népal », sachant qu'évidemment, elle ne peut pas y aller elle-même étant malade. Quand on est dans la position de l'amie, je pense que de la même façon qu'en le lisant, on est d'abord un peu surpris et on s'interroge sur le bien fondé de cette demande, et finalement, on se dit « mais finalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt ». Où ce n'est pas ce qui compte que de se dire est-ce que ça a du sens, est-ce que ça n'a pas de sens. Ça a du sens pour cette personne à ce moment-là, et si cette personne je l'aime et que c'est vraiment mon amie, elle n'a pas besoin d'argumenter, je ne vais pas avoir besoin de comprendre, seulement de respecter, de faire ce qu'elle me demande, parce qu'elle me le demande à moi, c'est un acte de confiance. Et donc elle le fait, donc cette espèce de, ouais, d'élan de je le fais par amitié, même si pour moi ça n'a aucun sens, enfin, ça c'est vrai que ça m'a assez plu. Ouais.
Comment est-ce que tout à coup on décide d'adapter un roman comme celui-là, qui est un roman, comme je l'ai dit, qui est un véritable succès de librairie, qui n'a pas commencé d'ailleurs comme un succès de librairie, parce qu'il a commencé en bouche à oreille. Et d'ailleurs, ce sont des copies que l'autrice a données à ses propres proches avant qu'on ne s'y intéresse en voyant le succès qu'il avait. Comment est-ce qu'on s'intéresse à votre âge avec un si petit cursus derrière soi? C'est-à-dire, vous avez un album derrière vous, qui était un album personnel, et tout à coup, vous vous lancez dans cette adaptation.
Alors, j'ai eu beaucoup de chance, puisque quand j'ai terminé les planches pour la bande dessinée précédente, donc Fragile, qui est sortie l'année dernière, moi, j'étais sur un espèce de flou après de qu'est-ce que je vais faire, quelles sont les perspectives, est-ce que je repars directement sur un projet de nouveau personnel, une adaptation. C'était une question dont on avait déjà discuté avec mon éditrice, qui, elle, trouvait que l'idée de l'adaptation était une bonne idée, le temps de, sur le côté, avoir le temps d'écrire quelque chose de plus personnel et qui tiendrait un peu mieux que directement repartir dans l'écriture et d'avoir un gap où finalement je travaille pas, parce que j'avais quand même envie de repartir assez rapidement sur un nouveau projet. Et puis à peu près à la même période, je crois que c'est Charlotte Gallimard qui a dû recevoir cette proposition de la maison Erol de faire adapter ce roman à succès en bande dessinée. Et il y avait d'autres maisons qui étaient aussi dans les négociations, mais je connais pas les noms. Et Charlotte a pensé que ce serait une bonne idée de me mettre sur ce projet-là. Je pense par rapport au dessin qui lui plaisait beaucoup dans le premier album, la manière de travailler la couleur aussi, qu'elle trouvait assez cohérent avec l'univers qu'il y avait dans Kilomètre Zéro et qui pourrait être une bonne façon de mettre en avant tous ces beaux paysages qu'on imagine quand on pense à la montagne ou à la nature et toutes ces couleurs. Enfin, le soleil est très présent dans le livre aussi. Il y a énormément de place qui lui a accordé les déclinaisons des couleurs du ciel et tout ça. Donc je pense que tout ça lui a fait un peu tirer des liens entre cette idée d'adaptation et ma manière à moi de travailler. Donc j'ai eu beaucoup de chance, évidemment. Et ensuite, j'ai lu le livre, ça m'a plu, j'ai dit que j'étais motivée.
Et banco.
Et puis voilà, quoi, ouais, c'est ça. Et
j'allais dire, précisément, quand on lit vos deux livres, puisque actuellement il n'y en a que deux, on est frappé par la symbiose qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire c'est le lien, c'est la couleur.
Oui.
C'est votre signature.
Mm-hmm. Ouais. Ouais, la couleur, c'est ma partie préférée dans le travail, de toute façon.
Enfin, Qu'est-ce qu'elle dit, la couleur, pour vous, Mathilde Ducret?
mais tellement de choses. Je trouve que déjà en termes d'ambiance, ça pose tout de suite soit un aspect qu'on veut donner plus dramatique avec des couleurs d'ombre qui seraient plutôt dans les violets, les bleus vraiment très tranchés, avec des lumières qui seraient vraiment plus chaudes. Ou alors une ambiance un petit peu plus lisse, un peu plus douce. Je trouve qu'elle amène aussi énormément en termes de rythme. On parle beaucoup de rythme en bande dessinée, que ce soit qui soit apporté par la manière de découper, le nombre de cases qu'on va utiliser dans une planche, ou les dialogues. Mais je trouve que la couleur, elle amène aussi cette notion de rythme. Si on a plusieurs planches qui se suivent et qui sont un peu dans les mêmes tonalités, et tout d'un coup, il y a un changement, ça, le lecteur, même sans être forcément conscient de ce changement, parce que si c'est fluide, c'est encore mieux, ça raconte aussi quelque chose. Et je trouve que parfois, la couleur, c'est un peu mis de côté aussi. En BD, on n'en parle pas forcément comme étant un sujet. Alors que pour moi, c'est vraiment le plus intéressant, c'est le langage de la couleur.
Alors, on va continuer d'en parler avec Jean-Louis Tripp, qui est justement là, et qui connaît un petit peu cette région, et vous avez traîné vos baskets, et c'est pas en basket que vous êtes allé jusqu'à l'Annapurna.
Oui, j'ai fait le tour du massif des Annapurna.
Il y a très longtemps.
Ah ouais, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dit l'autre. C'était l'année où le trek du tour des Annapurna a été ouvert, donc c'est un trek de plus d'un mois, un mois. Il a été ouvert au public, donc c'était en 1981.
Eh oui.
Ça ne nous rajeunit pas.
Alors Jean-Louis, quand vous voyez la manière dont Mathilde a transformé ce paysage, puisqu'elle n'y est pas allée et qu'elle essaie de jouer de la couleur pour dire autre chose, qu'est-ce que ça vous fait à vous ?
Sa couleur est très très narrative en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout du coloriage, du remplissage, c'est une couleur qui clairement dit quelque chose, Mathilde vient de l'expliquer. C'est ça qui est intéressant dans cette utilisation de la couleur. C'est le contraire des couleurs de Astérix, par exemple. Non, mais c'est très bien les couleurs d'Astérix, mais c'est pas du tout la même fonction, quoi. Donc, c'est intéressant. Moi, dans mes derniers livres, j'ai utilisé la couleur aussi de façon narrative, mais d'une façon très différente de celle de Mathilde. Mais c'est une couleur qui dit quelque chose, voilà, qui raconte quelque chose de plus que ce que raconte le dessin et l'histoire elle-même. Mm-hmm.
Alors, ouais. Raconter quelque chose de plus, c'est précisément l'intérêt d'une adaptation, puisqu'il y a un roman qui existe. Alors, quand on fait une bande dessinée, qu'est-ce qu'on essaie de dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on essaie d'enlever, de faire passer par le dessin à la place des mots, et puis peut-être de créer de différent ? Est-ce qu'il y a une forme d'émotion différente qu'on essaie d'amener ?
Oui, quand même. Je pense que c'est hyper important. À mon avis, une adaptation... parfois, on voit des adaptations, mais que ce soit des films ou des bandes dessinées, qui sont très, très proches de l'objet de base. Et je trouve que dans ces cas-là, c'est presque un peu dommage parce qu'on n'a pas vraiment de... Enfin, quel est l'intérêt, presque, qu'on pourrait se demander. Alors que si on laisse, et c'est une chance incroyable que j'ai eue d'avoir quand même énormément de liberté par rapport à l'interprétation, Maud, l'autrice, était quand même présente pour le droit de regard, ce qui est tout à fait normal, et elle a pris part à quelques étapes du processus, rien que pour s'assurer qu'on prenait la bonne direction, que les messages seraient bien retransmis, que les personnages les plus importants à ses yeux soient représentés. Et une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, je trouve que Il y a des moments où les silences, par exemple, comme il y a l'image, où il n'y a pas forcément de texte, ou alors l'image vient raconter peut-être autre chose que ce que le texte est en train de dire, ça apporte un niveau de lecture supérieur, enfin supplémentaire plutôt, qu'on ne trouve pas forcément dans le roman où on n'a que l'écriture comme outil. L'intérêt de la BD, c'est qu'il y a non seulement l'écriture, il y a aussi le dessin, il y a la couleur, il y a la mise en page de la planche, il y a ce luxe énorme de pouvoir se dire « Ok, je fais une double page » ou alors « Je redécoupe d'une manière, je fais en sorte que ça aussi, ça suggère une certaine idée. » Et je trouve que ça laisse des libertés immenses. Je ne suis pas très fan non plus de tout ce qui est tête qui parle en BD où il y a des immenses textes et puis c'est toujours un peu des plans de personnes en train de discuter sans vraiment être... pour dans ces moments-là, je trouve que ça manque de rythme et de diversité. Ouais, je sais pas, il peut se passer plein de choses, soit des close-up sur les mains ou alors des super close-up micro-microscopiques sur un petit élément de la table, une fleur, un pollen qui passe et tout. Et tout de suite, ça raconte autre chose, c'est plus poétique. Et je trouve que c'est une belle manière de suggérer des idées sans forcément devoir les écrire, les aplatir. Ça laisse plus de place aussi au lecteur d'interpréter un petit peu comme il le ressent.
Alors Maëlle, au bout de ce livre, va évidemment être transformée. Mm-hmm. C'est un personnage qu'on suit donc dans sa transformation, dans sa mue, qui est une mue vers quelque chose de positif, bien entendu. C'est un livre, ouais, c'est pas un scoop de le dire, hein, qui veut prôner une autre forme de vie et de regard sur le monde. Vous, quand vous la dessinez, qu'est-ce que vous avez en tête en vous disant, est-ce qu'il faut qu'on voit quelque chose de ce personnage entre le début et la fin ?
Il faut qu'on comprenne en tout cas qu'elle se détend, qu'elle est un petit peu moins rigide, on va dire, qu'elle s'ouvre, parce que c'est un peu tout l'enjeu pour elle, c'est de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir à la nouveauté, s'ouvrir à l'amour aussi. Elle est très enfermée, c'est quelqu'un qui est très verrouillé, qui est assez râleur aussi. Enfin, dans le livre, c'est hyper exacerbé, ce côté rejet qu'elle a un petit peu de tout ce qui n'est pas prévu, de tout ce qu'elle n'avait pas anticipé. Et tout ce qu'elle n'a pas anticipé, forcément, c'est une menace, forcément, c'est un problème. Donc, ouais, c'était plus l'idée de... Assez subtilement, quand même, plus dans le langage du corps. Peut-être elle est un peu plus... Ou les expressions du visage, où elle est un peu plus stoïque, elle est un peu... Elle achète un peu moins, elle sourit peut-être un peu moins. Et puis, elle pleure aussi, beaucoup en se cachant. Ou à la fin, elle est beaucoup plus dans l'acceptation de ses émotions, l'accueil. Et on la sent, je trouve, plus légère, plus ouverte et certainement plus positive aussi.
Merci Mathilde Ducret.
Merci beaucoup. Je rappelle
le titre donc de ce roman graphique qui est tiré d'un roman, hein, c'est Kilomètre Zéro, tiré du roman de Maud Ankawa. C'est paru chez Casterman. Dans un instant, Cindy Izzarelli plonge à bras raccourcis dans la mythologie. Ça vous dit ça, Mathilde, la mythologie ?
Ouais, beaucoup.
Ça vous parle ? Mm-hmm. Allez, c'est parfait alors.
Galaxy BD, l'émission qui explore tous les univers graphiques.
Voilà, Cynthia, on vient de l'annoncer, vous allez nous emmener sur les terres des dieux et des déesses, là où les mythes fondateurs rencontrent le féminisme. Mm-hmm. Relecture et appropriation révolte quand les autrices s'emparent des légendes antiques pour les revisiter sous un angle résolument égalitaire, voire révolutionnaire.
Oui, vous savez Thierry, j'aime bien ça. Mais la mythologie, elle pullule effectivement de stéréotypes, hein, des déesses sacrifiées, des monstres féminins diabolisés, des mères, des vierges, des tentatrices, qu'elles soient grecques, romaines ou nordiques. Hein, d'ailleurs, tous ces récits fondateurs ont un peu en point commun de ne pas vraiment faire la part belle aux figures féminines quand elles sont présentes tout court d'ailleurs. Et pourtant, on le sait, ces mythes et légendes sont souvent le socle de beaucoup de nos fictions modernes, qu'on parle de la fantaisie la plus flamboyante, à certains romans réalistes contemporains, voire des tragédies familiales. C'est des schémas qu'on retrouve partout. On peut penser à Pandore, qui ouvre cette fameuse boîte du malheur, Hera, qui est toujours représentée comme cette mégère jalouse compagne de son Zeus volage, ou encore Méduse, condamnée pour avoir été violée par Poséidon dans le temple d'Athéna. C'est des récits qui ont façonné notre imaginaire, mais un peu trop souvent à sens unique.
Alors ça, c'était avant ?
Oui, comme on dit, effectivement. Et heureusement, parce que de plus en plus d'autrices s'emploient à inverser la vapeur en se réemparant ces figures mythologiques et en tout cas en essayant de les réinterpréter sous un autre prisme, si pas féministe, en tout cas plus actuel. C'est notamment le cas de Noémie Fachan, qui est mieux connue sous son avatar Médusa Gorgon. Elle s'est fait connaître notamment sur Instagram. Elle tient un compte qui illustre depuis plusieurs années cette figure de la méduse assez revancharde, féminine, puissante, qui s'amuse en fait à prendre des stéréotypes ou des injonctions patriarcales, ou en tout cas des injonctions de code de genre, pour les démonter par l'argumentaire. Ce sont des illustrations, mais avec beaucoup de textes. C'est un projet qui, au fil des années, a évolué et qui devient aujourd'hui une trilogie de bande dessinée qu'elle a baptisée la trilogie de la mythologie féministe. Le deuxième tome vient de paraître, c'est aux éditions Le Duc. Ce deuxième tome, il s'appelle La Voix des Harpies. Il vient juste après L'Œil de la Gorgone. Et qu'est-ce que ça nous raconte, cette Voix des Harpies ? Eh bien, on y retrouve un cercle de paroles sur l'Olympe en non-mixité, où toutes les figures mythologiques féminines sous-estimées sont représentées. Un cercle qui est tenu par ces harpies. Vous vous souvenez, ce sont ces fameuses créatures mi-femmes, mi-oiseaux, qu'on accusait de voler les hommes et de les mener à leur perte. Eh bien, ces harpies prennent enfin la parole et nous expliquent en quoi elles ont été injustement traitées. Et donc, on va pouvoir relire avec elles, comme ça, 22 portraits de la mythologie gréco-romaine. Et ce sont ces figures, souvent diabolisées, qui vont prendre la parole et proposer une autre lecture de leur histoire. Et surtout, en fait, tout cela se porte sur une toile de fond. On se rend compte que les accusations de violences sexuelles envers les dieux se multiplient au travers de l'Olympe. Tiens, tiens, tiens. Tout ça est donc porté par une vague de révolte et elle décide de renverser tout ensemble l'ordre établi jusqu'à destituer Zeus et instaurer une société égalitaire. Bref, bienvenue à l'ère du MeToo Olympe. C'est assez malin. On retrouve donc ces figures que j'ai citées, Héra, Aphrodite, Athéna, mais aussi Ariane ou Sénée, des figures moins connues. L'écriture, elle est très vive, elle est très engagée, il y a beaucoup, beaucoup de textes et le dessin, eh bien, s'éloigne pas trop de ce qu'on a pu retrouver chez Noémie Fachan sur Instagram. C'est un dessin très graphique, presque mosaïque, avec des petits motifs répétitifs et des aplats tranchés. Ça parlera à celles et ceux qui la suivent déjà et je pense que ça va titiller la curiosité de certains. Et en tout cas, je pense que c'est un album à lire pour alimenter notamment les conversations soit autour de la machine à café, soit à l'apéro.
Voilà, et ça m'a fait penser à un autre roman graphique, c'est celui d'Agnès Maupré.
Tout à fait.
Bâtarde de Zeus.
Effectivement.
Qui est quand même dans la même idée.
Oui.
Et puis, bien, autre style, même démarche, avec un album à destination des plus jeunes, qui vous a séduit aussi.
Oui, tout à fait. Coup de cœur pour le fond, pour la forme et aussi pour l'artiste. C'est Annie qui cumule ses talents d'artiste et d'autrice illustratrice à un quotidien de chercheuse en archéologie à l'ULB, excusez du peu, et qui signe donc un premier album publié chez Glénat, Femme d'Asgard, qui là nous emmène dans la mythologie nordique cette fois. Et elle propose donc Annie de redécouvrir la culture viking, parce que c'est bel et bien une culture et pas une identité ni un peuple, en redonnant toute leur place aux figures féminines de cette mythologie viking qu'on oublie souvent parce qu'on a souvent ces Thor et ces Odin, ces grands gars musclés qui prennent un peu toute la place dans l'imaginaire collectif. Mais qui se souvient réellement de Freya, qui est la déesse de l'amour et la magicienne la plus puissante finalement de ce monde, ou encore de Skadi, la chasseuse de montagne en ski, qui a été la première déesse à divorcer de commun accord de son époux parce qu'il ne s'accordait pas, lui étant un dieu de l'océan et elle une déesse de la montagne, ou encore des Nornes, ces fameuses tisseuses de destin qu'on peut rapprocher des trois parcs. Ce sont des femmes puissantes, autonomes, parfois même guerrières, et cet album en fait vient rééquilibrer cette histoire pour essayer d'inspirer les jeunes lecteurs et les jeunes lectrices, quel que soit leur genre d'ailleurs. Tout ça est servi par un très très beau style de dessin, très sobre, très expressif et qui mêle un peu le sens du détail historique. C'est une lecture aussi idéale pour redonner de l'amplitude à ces récits fondateurs, offrir d'autres modèles et aussi, c'était son intention, initier peut-être ces jeunes regards à un autre pan de l'histoire de l'art. On l'écoute.
Pour moi, ce serait plus la lumière. C'est ce que j'ai voulu mettre en exergue dans les dessins. Faire quelque chose à la fois qui reflète l'art médiéval et l'art viking. Donc j'ai quand même repris des influences de l'art viking de l'époque. Et j'ai essayé de moderniser tout ça, mais avec une palette de couleurs très lumineuse pour donner envie aussi aux enfants de connaître ce pan de l'histoire et cette mythologie. Par exemple, des pierres runiques qui ont été intégrées aux illustrations. Ces pierres runiques, elles existent, donc vous pouvez aller les trouver, taper sur Google et vous pouvez les retrouver. Il y a 3000 à peu près pierres runiques qui ont été découvertes dans les pays scandinaves et j'ai voulu les intégrer et elles répondent également aussi à l'illustration en elle-même. Par exemple, je ne sais pas s'il y avait si dans l'illustration de Ran, il y a une pierre runique avec un bateau parce que c'est la reine des marins. Voilà, mais ce sont des pierres qui ont réellement existé. J'ai illustré également le bateau d'Osberg. Donc c'est que des artefacts qui existent et c'est pour donner une première approche de l'art de cette période et de l'art de ce peuple qui est complètement méconnu.
Et ne vous y trompez pas, c'est un album jeunesse, mais c'est très très costaud au niveau du contenu, même si ça reste très digeste. Il y a carrément un lexique à la fin et je pense que c'est vraiment à mettre entre toutes les mains des 8 ans et même des adultes si vous n'y connaissez rien à la mythologie nordique et que vous êtes curieux de redécouvrir ces divinités féminines. Bref, deux albums, deux approches, mais une même ambition, vous l'aurez compris, sortir les femmes des marges des mythes pour les replacer au centre de l'histoire. Je vous rappelle donc les titres, La Voix des Harpies de Noémie Fachan alias Médusa Gorgon aux éditions Le Duc et Femme d'Asgard de Annie, qui est parue aux éditions Glénat.
Merci Cindy, on vous retrouve tout à l'heure pour une ultime recommandation. Mathilde, l'un des deux vous tentait ou vous n'êtes pas
deux,
trop
Femme
d'Asgard?
Non, franchement les deux, ouais.
Ah, formidable. Vous n'êtes pas venue pour rien Cindy.
Voilà, je suis heureuse.
Les cœurs de l'armée rouge avec Kalinka pour introduire la bande dessinée de Jean-Louis Tripp qui s'appelle Un père et qui est paru chez Casterman. Un père, un, papa,
oui, hein, oui.
Pas l'impère-père. Jean-Louis, pourquoi ai-je mis les cœurs de l'armée rouge pour introduire cette bande dessinée? Vous allez nous le dire tout de suite.
Alors, je suppose que c'est parce que mon père était communiste.
Bah, parce que vous dites dans le livre que vous l'écoutiez.
Bien sûr, que souvent le dimanche matin, c'était le moment où on écoutait de la musique. Donc, il y avait des disques.
Vous aviez le choix entre Jean Ferrat.
Des 33 tours. Et on avait droit à Ferré, Brassens, etc. Et les chœurs de la mer rouge de temps en temps. Donc, voilà.
Vous vous attaquez donc à la figure de votre père, qui était instituteur, comme votre mère d'ailleurs. Mm-hmm. Vous aviez un couple de parents instituteurs. Et après, d'autres albums autobiographiques. On a parlé tout à l'heure d'Extase. Et puis, il y a eu évidemment l'album Le Petit Frère, qui a eu un retentissement certain et qui racontait la disparition de votre frère lorsque vous aviez 18 ans, qui a été fauché par une voiture alors que vous étiez tous en vacances. Là, vous avez eu envie de continuer cette veine autobiographique. Il y a eu donc d'abord Les Corps, d'abord ce moment très particulier de la vie d'une famille où on perd un enfant. Maintenant, c'est un autre regard, c'est celui de l'enfant que vous avez été, qui essaie de retrouver ce qu'a été sa place dans ce trio avec son père et sa mère, parce que c'est même plutôt la place avec votre père et votre mère que celle dans toute la fratrie qui vous intéressait ici.
Alors moi, c'est marrant parce que moi je dirais presque l'inverse. Pour moi, la question c'est quelle a été la place du père dans l'homme que je suis devenu. C'est ça, puisque en fait,
en passant par le moment où vous êtes avec lui seul à seul.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais. Ça passe aussi à un moment donné par cette confrontation qui est arrivée assez sur le tard dans ma vie, parce que pendant très longtemps, je n'ai pas vraiment osé lui dire ce que je voulais lui dire, ce que j'avais besoin de lui dire. Et puis, un jour, c'est arrivé. Donc, effectivement, il y a eu cette grande discussion qui arrive quelques années avant sa mort, mais qui a été très importante pour moi. Le fait de pouvoir le dire, ça a été très important.
Alors, vous avez commencé cette bande dessinée avec, j'imagine, les mêmes outils que les deux précédentes. C'est vraiment l'autobiographie qui devient une espèce de grande malle à outils dans laquelle vous allez chercher, à certains moments, ceci ou ceci ou ceci.
Oui.
C'est des périodes que vous revisitez, en fait, qui sont presque, à certains moments, superposées les unes sur les autres.
Exactement. Pour moi, ce sont comme des pièces d'un puzzle. C'est-à-dire que dans un puzzle, quand on assemble les pièces, il y a un morceau d'une image qui est dans l'autre, dans l'autre pièce. Donc en fait,
est-ce que ça devient une gymnastique, Jean-Louis Tripp? Ouais. Est-ce que à un moment on commence à savoir comment jouer avec ses souvenirs, comment aller rechercher ses souvenirs,
fait, ce qui s'est passé,
comment convoquer tout ça?
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai commencé avec Extase. Donc pour moi, le projet initial, il n'y avait pas d'autre projet que celui-là, qui était de raconter. En fait, pour moi, Extase, c'est très politique. Ça parle du corps, de la place du corps dans notre vie. Avec toutes les injonctions qu'on peut avoir à droite à gauche. Moi, je pense qu'en ce moment, c'est très, très d'actualité. Hein. Et donc, comment on se débrouille avec ça alors qu'on n'a pas forcément les clés, et puis que quand on arrive à l'adolescence, on se trouve confronté à la sexualité. Bon, voilà. Donc, Extase, c'est ça que ça questionne, le tome 1, le tome 2. Et puis, à un moment donné, après le tome 2, je me suis rendu compte que je commençais à être catalogué comme un auteur qui parle que de cul. Et là, je me suis dit, bon, là, ça va pas, parce qu'en fait, je veux pas me faire enfermer là-dedans. Et il se trouve qu'à ce moment-là, a surgi un événement, ça fait deux événements qui se sont produits, et qui ont fait surgir l'urgence de raconter la mort de mon frère, donc avec le petit frère. J'ai compris à ce moment-là que Extase et le petit frère, ça faisait partie du même ensemble, qui est, un père, ça vient également dans cette veine-là, c'est questionner ce qui nous construit, ce qui fait que moi, je suis devenu l'homme que je suis. Et dans ces éléments-là, il y a la sexualité, évidemment, il y a le deuil et il y a le père. Et tous ces trois choses-là, ce sont des choses auxquelles tout le monde est confronté. Donc en fait, en parlant du plus intime, vraiment le plus personnel, le plus intime, mon pari, c'est d'arriver à toucher, par le biais des émotions, de l'échange d'émotions, de toucher à quelque chose d'universel et que tout le monde puisse s'y retrouver d'une manière ou d'une autre. Voilà, tout le monde est confronté à un moment de l'adolescence à la sexualité. Comment on y répond, ça appartient à chacun. Le deuil, il y a un moment où on le vivra dans sa vie, c'est sûr aussi. Et tout le monde a eu un père, ou pas de père, mais ça revient même. Voilà. Donc en fait, la lecture que les lecteurs font de mes bouquins, ça m'appartient pas du tout. Ça leur appartient à eux. Ils viennent lire avec leur propre vécu. Et voilà, quoi. C'est une espèce de miroir que je tends.
Est-ce que ça, c'est pas le propre de toutes les bandes dessinées, Mathilde Ducret ? Est-ce que les lecteurs et les lectrices ne s'emparent pas de tous les livres et les lisent autrement que ce qu'on avait pensé leur proposer ?
Les bonnes bandes dessinées, les bons livres, je pense qu'ils font ça, oui. Ils laissent cette liberté, ou en tout cas, ils suggèrent cette liberté. Et après, c'est le travail du lecteur de la prendre ou pas. Parce qu'il y a des lecteurs qui peuvent aussi être démunis par cette liberté d'interprétation et de se regarder dans ce miroir que tu citais tout à l'heure. Mais je pense que oui, c'est à ça qu'on reconnaît, je pense, une bonne histoire, un bon livre, c'est qu'elle vient forcément appuyer sur des choses, nous montrer des choses de nous-mêmes et elle nous demande de l'apprendre et d'en faire quelque chose, quoi.
Moi, quand il y a un film où il y a marqué « Based upon a true story », pour moi, c'est très important. Quand ça parle de quelque chose qui s'est réellement produit, il y a un effet réalité pour moi qui est important. C'est pour ça que moi, je pense que dans mon travail autobiographique, il y a cette chose-là est très forte, plus, par exemple, pour moi, que dans Magasin Général.
Dans votre livre, Jean-Louis Tripon,
dans mes livres,
on se rend compte ici qu'il y a une chose qui est assez fondamentale, c'est la manière dont vous vous êtes construit, je vais dire, malgré vos parents. Vos parents ont à la fois été instituteurs et donc voulaient évidemment faire de vous des gens qui soient épanouis, et en même temps ont tout fait pour que vous vous occupiez de vous-même.
Mais c'est ça qui était merveilleux pour moi.
Ce qui est drôle,
ce qui est très très étrange, c'est que j'ai compris ça dans une discussion avec mon frère, parce que lui, on a eu les mêmes parents au même moment, hein. Mais lui, il a la vision inverse, c'est-à-dire pour lui, nos parents ne se sont pas occupés de nous. On était laissés, il dit, on était laissés à l'abandon et tout ça. Et moi, pour moi, c'était un espace de liberté absolument extraordinaire où je pouvais faire mes propres expériences. Mon père était un adepte de la méthode Freinet, qui est une méthode d'expérimentation, de tâtonnement expérimental. Hein. Et pour moi, ça a été absolument génial, quoi, cette liberté-là et la confiance qu'il a pu me faire très tôt, parce que
parfois un peu dangereusement, quand même.
Ben oui, mais c'est ça qui est merveilleux. Que je raconte cette histoire incroyable où, avec mon cousin qui a exactement le même âge que moi, on revient de vacances chez mes grands-parents. Et puis on rate pas une correspondance. Les horaires ont changé. Donc il n'y a plus la correspondance qu'on devait avoir dans une gare, la gare de la Tour de Carole dans les Pyrénées. Bon, voilà. Et du coup, il n'y a pas de train le lendemain matin. On est à 200 km de Toulouse.
Et vous appelez votre père.
On appelle mon père d'une cabine et il nous dit, je viens vous chercher. On lui dit, non, regarde, on va se débrouiller. Que vous allez faire quoi? On va bivouaquer et tout. Et il dit, ok.
Et vous avez
une cabine de 12 ans. Et donc, on a bivouaqué dans la montagne. Et ça a été un moment. Moi, j'ai appelé mon cousin avant de dessiner cette scène. Je lui ai dit, tu te souviens de ça? Ouais. C'est quoi le souvenir que tu as? Et on a le même souvenir. C'est-à-dire que c'est un passage initiatique, un rite initiatique. Mmh. Et donc, on a tous les deux puisé une espèce de, comment dire, ça a été un truc constructeur de l'estime de soi. De dire, mais wow, on est capable de faire ça. À 12 ans, on était capable de se démerder, de bouffer un demi-tranche napolitaine Vandamme, un quart de sandwich qui nous restait, de se rationner, de faire un feu, de chauffer des pics, enfin, de durcir des pics, des pointes de bâton pour se protéger contre d'éventuelles agressions, de faire un tour de garde, etc., etc. On a été capable de faire ça, c'est formidable.
Et de bien flipper avec tous les bruits de la forêt.
De bien flipper, évidemment. Mais ça, ça fait partie de surmonter, ça. Voilà.
Cynthia Azarelli, vous vouliez poser une question à Jean-Louis Tripp.
Mais oui, parce que je voulais revenir justement sur ce que vous disiez, sur ces récits basés sur le réel. Ce que je trouve formidable, c'est qu'à la fois, dans cet album, il y a un rapport au corps qui est très présent. Il y a un rapport aux expériences sensorielles.
Dans tous vos rapports. Dans tous mes livres, il y a un rapport au corps.
Exactement. Donc, que ce soit dans l'extase, dans la mort dans le petit frère ou ici, il y a cette prolongation des corps. Il y a qui vous êtes, vous, les corps qui manquent, et puis les corps qui vous ont engendré, si je puis dire. Et en même temps, il y a ce rapport au récit. C'est très émouvant en disant voilà, le premier souvenir dont je me souviens, c'est ça. Et puis il y a les souvenirs dont je ne me souviens pas, mais qu'on m'a tellement raconté que pour moi, ils sont tout à fait présents. Finalement, c'est quoi le réel? C'est la somme des récits et qui vous est propre, ou bien c'est ce qui reste des expériences qui sont passées par le corps?
C'est la question de la mémoire. En fait, moi, j'ai découvert en faisant de l'autobiographie que j'avais une bonne mémoire. Parce que tout le monde me dit, comment tu te souviens de tout ça, de ton premier souvenir? Tu avais peut-être 2 ans et demi, un truc comme ça, 3 ans, c'est un flash, mais bon, voilà. Et même par rapport à tous mes récits, Extase, par exemple, tu te souviens de ce truc-là, à l'école primaire, quand t'étais... Oui, moi je me souviens très bien. Donc moi je pensais que c'était normal de se souvenir de tout ça. Or, j'apprends qu'en fait, c'est pas normal. Enfin, en tout cas, pour certaines personnes, c'est étonnant. Donc en fait, moi, le travail sur la mémoire est très important, évidemment. Et dans mon cas, quand je commence à me connecter sur des événements, et donc sur les souvenirs que j'ai de ces événements, c'est comme tirer sur une, sur une pelote. Mmh. Il y a d'autres choses qui viennent et c'est assez précis. Et même si j'ai des choses dont je ne me souviens pas, la confrontation avec d'autres témoins, comme dans Le Petit Frère, par exemple, avec ma mère, où je la questionne sur qu'est-ce qui s'est passé après l'enterrement, je ne me souviens pas et tout ça, quand elle m'en parle, ça réanime. Enfin, c'est comme, hop, il y a le tiroir s'ouvre et il y a de nouveaux souvenirs qui viennent. Après, ce qui est intéressant, c'est que les souvenirs, ce sont les miens. Et donc, mon frère, par exemple, mon frère n'a pas lu, ne lit pas mes livres autobiographiques. Il ne veut pas les lire. Donc, bon, je respecte ça complètement. Je pense qu'il ne veut pas confronter ses souvenirs aux miens, parce que ce n'est forcément pas les mêmes. Et lui, ce qu'il a gassé un petit peu dans Le Petit Frère, c'est quand ma mère disait « Mais oui, tu te rappelles, ça s'est passé comme ça ». Jean-Louis l'a raconté dans Le Petit Frère. Ouais, il disait, mais non, mais attends, ça, c'est ses souvenirs à lui.
Et effectivement, j'y étais, moi.
Mais oui, effectivement, c'est subjectif. C'est-à-dire, moi, ce que je raconte, c'est mon expérience à moi, c'est mes souvenirs. J'ai aucune volonté de vérité universelle, pas du tout, quoi. Voilà.
Alors, dernière question, Jean-Louis Tripp. Après cette trilogie, qui est en fait une tétralogie, puisque le Extase était en deux albums.
Oui, et puis Extase, c'est pas fini, hein, parce que normalement.
Ah ben, voilà, justement, ouais. Je parle de trilogie parce qu'on peut dire qu'il y a Extase et puis il y a les deux autres. Est-ce que cette veine autobiographique, vous pensez l'avoir, suffisamment.
Ben après, je sais pas combien de bouquins il me reste à faire, parce que là, j'arrive, donc voilà. Mais tant que je suis encore suffisamment vif d'esprit et alerte des trois doigts de la main droite dont je me sers pour dessiner, j'aimerais continuer. Donc, Extase, par exemple, pour moi, c'est un projet dans le projet. C'est-à-dire que j'aimerais raconter la totalité de la vie sexuelle d'un homme, en tout cas un homme né à la fin des années 50. Et moi, alors j'ai pas hâte, hein, mais enfin, je trouve que Extase à la maison de retraite, ça serait intéressant. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe, je n'ai aucune idée, j'imagine qu'il se passe des trucs ou pas, j'en sais rien, mais ça m'intéresserait de raconter ça. Pour le moment, je vis ce qui pourrait être le tome 4. Le tome 3, ça y est, je sais ce que c'est, ce que ça sera. Voilà. Mais j'ai aussi d'autres projets, par exemple mon prochain bouquin, probablement, je ne suis pas encore 100% certain, mais je pense que ça sera quelque chose qui parle aussi d'autobiographie, donc qui va s'inscrire dans le même truc, mais qui sera plus une réflexion sur ma propre évolution. La société et le monde ayant autant évolué, comment moi je m'adapte ? Comment moi je me suis adapté à alors que je suis né dans les années 50 dans un truc patriarcal, et comment je suis sorti de ça, ou en tout cas j'ai essayé de le faire, qu'est-ce qui est resté peut-être chez moi marqué de ça ? Voilà, de m'interroger là-dessus, quoi.
Est-ce que la BD vous aide à comprendre le monde et vous comprendre vous-même ?
Oui, je pense qu'elle m'aide à me comprendre moi-même, ça, probablement. Parce que quand on fait l'autobiographie, on est obligé de formuler des questions qui ne sont peut-être pas si claires que ça. Là, il faut les poser vraiment pour pouvoir donner des pistes, quoi.
Merci Jean-Louis Tripp. Impair, donc, c'est votre ouvrage paru chez Casterman. Vous restez tous les deux avec nous encore parce que l'émission n'est pas tout à fait terminée. On va commencer par les dernières recommandations. Et donc, on commence par celle de Cynthia Israeli.
Mais oui, à l'approche des vacances qui veulent dire parfois retrouvailles avec des enfants qu'on n'a pas toute l'année, qu'on n'a que quelques semaines ou quelques mois par an, j'avais envie de vous laisser avec une interjection que je suis allée chercher dans le rayon album jeunesse encore une fois. Quelle joie ! Quelle joie, point d'exclamation, c'est le titre de cet album. Écrit par l'autrice Iris Bray et illustré par Anna Vandagoguset. Iris Bray, elle est journaliste, elle est autrice, elle est critique de cinéma. Anna Vandagoguset, elle est illustratrice, elle est aussi tatoueuse et ça se ressent dans ce dessin qui est un peu punk, très coloré et qui, à mon avis, accrochera l'œil des parents autant que des enfants. Qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, simplement, c'est parti d'une inquiétude de l'autrice d'Iris Bray qui a expliqué qu'un jour, elle a eu peur, quand elle s'est séparée du père de son enfant, que son fils soit triste de devoir vivre sans elle une semaine sur deux. Il lui a posé la question et l'enfant lui a répondu: bah, je suis un peu triste, mais un peu content aussi, parce que quand je suis triste de ne pas te voir, je suis content de faire d'autres choses avec papa. Et à partir de ça, elle a voulu raconter c'est quoi la vie d'une femme d'aujourd'hui, de 40 ans, féministe, qui a son enfant une semaine sur deux. Et en parallèle, sur chaque page, on voit ce qui se passe les semaines sans et les semaines ensemble. Et elle a voulu collecter toutes les petites joies qui structurent en fait ce quotidien et qu'on a parfois tendance à mettre de côté au profit des très grandes joies ou des très grandes peines. Alors que toutes ces petites joies sont extrêmement formatrices. C'est un très très joli album, très coloré, comme je l'ai dit, assez rock, et qui diffuse un grand sentiment de liberté et beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse. Quelle joie donc, et c'est paru aux éditions La Ville Brûle.
Voilà, et mon coup de cœur à moi pour terminer cette émission, c'est Why Don't You Love Me, de l'anglais Paul B. Rainey, paru chez Atrabil. Alors c'est la chronique d'une famille totalement dysfonctionnelle, sur un mode humoristique plutôt désespéré. C'est un couple qui fait chambre à part. Alors on a elle en dépression totale. Elle n'est plus prête à la moindre concession. Elle a perdu le sens des réalités comme celui de la morale. Elle peut demander sans honte à son jeune fils d'aller chercher du vin avec son argent de poche à lui. Lui, le mari, sortant d'un long congé pour burn-out, totalement déphasé, tant au boulot où il n'en touche pas une, qu'avec ses deux jeunes enfants dont il ignore jusqu'au prénom. C'est vous dire quand même le genre de couple que c'est. Le tout est raconté en strip. Des strips à suivre, ça donne un rythme, ça touche évidemment clairement à cette espèce d'humour américain qu'on connaît très très bien. Hein. C'est un livre épais, avec une ligne qui peu à peu va devenir un peu inattendue par rapport à ce couple de départ. C'est drôle, c'est cynique, c'est dépouillé, c'est super efficace. Why Don't You Love Me, c'est paru chez Atrabil.
La première...
Galaxy BD.
Il est temps de nous quitter. Merci à Mathilde Ducret et Jean-Louis Tripp, les auteurs du jour, et à Cynthia Isarelli également.
La première, Galaxy BD, Thierry Belfroy.